Confine ta mère, c'est l'émission collaborative de Radio Béton sur l'actualité locale liée au Covid-19. Paroles officielles, interviews et témoignages du corps médical, de celles et ceux qui bossent ou qui sont confinés. Confine ta mère, du lundi au vendredi à 13h et le samedi à 12h. Rediffusé du lundi au vendredi dans l'émission Confinement FM. Je suis avec Arnaud Lantoine, le directeur d'Ecopia. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, est-ce que tu pourrais nous rappeler qu'est-ce que c'est que Ecopia, quelles sont ses missions?
Oui, bien sûr. Ecopia, c'est un organisme de formation, d'accompagnement et de conseil pour les acteurs culturels, pour l'ensemble de la filière culturelle. On est basé sur Tours depuis une bonne dizaine d'années et installé au quartier des Halles. On est une équipe de 4. Voilà. Principalement, on a des activités vers les individus sur leur vie professionnelle. On les accompagne, voilà, sur les différents temps de la vie professionnelle, la professionnalisation, l'évolution de carrière, le développement de carrière, voire les questions liées à la reconversion. Et de l'autre côté, on intervient aussi auprès des structures sur des missions d'appui conseil et des interventions d'accompagnement dans le cas de dispositifs type le DLA, par exemple.
Alors, tout ça se faisait en présentiel, je suppose, principalement, alors que là, depuis la mi-mars, c'est le confinement, et donc c'est que des interventions à distance?
Oui, voilà, on s'est mis à distance, à la fois, parce que dans les missions d'accompagnement, on a des accompagnements, notamment d'artistes. On a une convention avec le département pour accompagner 150 artistes. Donc là, on continue les accompagnements, mais à distance, évidemment. Voilà, et puis pas mal de mise en réseau, de contacts. On a essayé aussi de continuer nos missions un petit peu d'information, de diffusion des mesures, des choses comme ça, à travers l'animation de notre page Facebook, sur laquelle on essayait de relayer à chaque fois tout ce que les réseaux nous apportaient comme information.
Finalement, est-ce que ça pourrait être une piste de travail pour plus tard, d'avoir cette part de distanciel qui n'oblige pas à se déplacer?
Les deux sont importants. Enfin, je pense que dans le distanciel, on a effectivement... trouver, en tout cas, bon, par la nature de notre travail aussi, notamment le travail d'accompagner, par exemple, un porteur de projet ou un responsable de structure. Je pense que l'échange qu'on peut mener à distance est possible, de même avec un artiste sur ses réflexions. Après, il y a quand même cette importance de la rencontre, de l'échange, de l'interconnaissance entre les acteurs, etc. Enfin, un peu d'émissions, secondaires, enfin, qui sont un petit peu la partie, immergé du travail qui est tout aussi importante et que là pour le coup le présentiel nous manque.
Et donc avec ID37, vous avez suivi un certain nombre de structures culturelles, d'associations qui œuvrent dans le domaine de la culture, voilà, pour essayer de les aider, pour qu'ils s'informent sur les aides. Tu peux nous parler un petit peu de cette opération?
Oui, bien sûr. Bah, l'idée c'était très vite, on l'a vu tous, hein, à titre personnel, enfin l'expérience qu'on peut faire. Après il y a effectivement, pour chacune des structures, il y avait besoin, passer l'état de sidération, on va dire, de pouvoir se mettre en mouvement et se mobiliser pour essayer de réparer, ou en tout cas de voir l'étendue des dégâts et d'essayer de voir comment on pouvait continuer à avancer. Et par rapport à ça, très très vite, avec ID37, on a une réflexion de dire, mais dans ce cadre-là, ça peut être intéressant d'abord à la fois de faire le point sur les mesures, parce qu'à un moment donné, effectivement, tout le monde cherchait de l'information, puis après, je pense qu'on était noyé sur les informations, souvent les mêmes, et en tout cas au même degré, c'est-à-dire pas forcément avec précision, une présentation de la capacité de pour qui c'est possible, etc., comment elle se met en œuvre. Voilà, donc il y avait l'idée un petit peu d'accompagner sur l'utilisation des mesures, et aussi d'accompagner les collectifs sur les réflexions sur quelle stratégie mettre en œuvre, qu'est-ce qu'on va mettre en place, comment gérer cette crise, en fait. Et les retours qu'on a eus par rapport à ça sont effectivement que ça faisait du bien de pouvoir parler, présenter un petit peu ses actions et ses idées et de mettre ça en perspective avec quelqu'un d'extérieur à la structure.
Parce que du coup, là, tu as une espèce de vue transversale un petit peu reculée de l'état du monde de la culture. Et donc, c'est quoi tes conclusions sur l'état de ces associations?
Vu de ma fenêtre, ce que je veux dire, c'est que on a effectivement un impact très fort et assez violent. Grosso modo, hein, si je schématise, on a vraiment des structures de création, des structures de production, des structures de diffusion. Chacun à son niveau est impacté par le confinement et la crise, à différents degrés. Après, on a certaines structures qui font de la création et de la production, d'autres de la production et de la diffusion, ou les trois parties. Donc, ils doivent gérer tous les éléments par rapport à ça. On a quand même un élément qui est distinct, c'est-à-dire selon si on est des structures totalement privées ou des structures qui sont accompagnées par les politiques publiques et des subventions, on va dire que celles qui sont accompagnées par les subventions, on voit un impact plus amorti que les autres. L'effet est moins dur, mais il n'en reste pas violent, puisqu'on est quand même dans une caractéristique d'un secteur avec une forte saisonnalité. Et on peut bien imaginer, par exemple, pour une compagnie d'art de la rue, que l'ensemble de l'activité se mobilise pour le printemps et l'été, et que là, il n'y aura rien pour les événements. Pareil, toute une année d'économie, de travail, d'organisation d'un événement qui, pour le coup, n'aura pas lieu. Voilà, donc évidemment, l'impact est très violent.
Avec une grosse incertitude sur l'après, parce que finalement, là, on parle de 2020, mais ça aura forcément un impact sur 2021.
Oui, et je pense que c'est ça qui est important. Là, effectivement, l'ensemble des mesures, les soutiens, les aides viennent bien, on va dire, soigner l'urgence, ou en tout cas, tenter de gérer l'urgence. Mais en fait, on voit très vite que les impacts vont avoir des effets sur les années suivantes. Par exemple, les politiques de report, comment elles se font? Est-ce qu'on va pouvoir reporter des programmations sur l'année prochaine, alors que dans beaucoup de lieux, les saisons sont déjà bien avancées? Les programmations de saison prochaine sont bien avancées. Donc, est-ce qu'on parle d'un report à 2022? Ou alors, est-ce qu'on fait par ricochet, ceux de 2021 iront en 2022, ceux de 2020 iront en 2021. Voilà, donc il y a forcément des effets où pour l'instant, c'est pas vraiment comment ça va se gérer. Quelle économie auront les organisateurs d'événements qui n'auront pas créé l'économie pour l'ensemble de l'année de préparation de l'événement suivant. Voilà, bref, quelle économie auront les structures de production qui n'auront pas de spectacle nouvellement créé à diffuser ou à produire. Ah. Donc en fait, on voit bien que il y a un effet effectivement rétroactif, enfin, en tout cas pas rétro, mais par ricochet, qui fait qu'effectivement, on va avoir des effets complémentaires sur 2021 et 2022.
Le gouvernement a mis en place un certain nombre de dispositifs de soutien, d'aide, qui ont plutôt été pensés, je suppose, pour les entreprises. Finalement, est-ce que les associations font appel à ce genre de dispositifs?
Alors, effectivement, souvent, c'est vraiment dans la dimension économique de la structure. Et donc, on parle des TPE, PME, et parfois, voilà, on a eu des structures qui se posaient la question si, en tant qu'association, elles pouvaient répondre. De même que les artistes-auteurs se posaient la question si, en tant qu'indépendants, ils pouvaient répondre à des aides ou des soutiens. Ah oui, bien sûr, déjà, là, on peut donner cette information-là, c'est évident. L'association, à partir du moment où elle est employeur ou à partir du moment où elle est aussi inscrite dans une économie, enfin, dans une activité économique, a tout à fait droit à ces aides, au même titre que les TPE, les PME, d'autres secteurs. Et ce qui semble important, effectivement, c'est dans cette vision un petit peu en projection sur les prochaines années, c'est, je pense que là, il va falloir effectivement que les collectivités, enfin, qu'on appuie un peu le secteur en renforçant peut-être la présence des collectivités dans le soutien de l'économie de la culture. On pourrait imaginer, par exemple, des conventions triennales pour essayer de rassurer des structures en leur donnant 2 à 3 ans pour se remettre à flot et se remettre un petit peu de l'effet de année blanche.
Alors, les dispositifs d'aide là, dont on vient de parler, ils vont avoir un effet court, c'est-à-dire que ça marche pour le mois de mars, d'avril, mais j'ai pas bien compris si ça aurait lieu, mais ensuite ça va s'arrêter alors que le monde de la culture, comme on vient de le dire, il va être longtemps impacté, au moins toute l'année 2020. Il n'y a pas de dispositif de soutien spécifique pour toutes les entreprises qui vont être impactées durablement?
Non, voilà, c'est bien là qu'il y a une sensibilisation à faire. C'est qu'effectivement, il faut vraiment qu'on construise ces politiques de soutien ou de relance ou de reprise vraiment dans une perspective de 2 à 3 ans et non dans l'immédiateté. Il était important d'avoir tout un dispositif et je pense que là-dessus, il aurait été pire qu'il n'existe pas. Donc voilà, je pense que le fait d'avoir mis un ensemble de mesures en place a permis encore une fois de gérer cette urgence, ou en tout cas en partie d'apporter des solutions à l'urgence, mais bien évidemment, l'impact va vraiment se diluer sur 2 à 3 ans dans toute la complexité que ça. Enfin, on peut prendre d'autres exemples. Une compagnie qui aurait, prévu par exemple d'aller en 2021 à Avignon ou à Aurillac ou à Chalon, qu'est-ce qui se passe pour elle? Est-ce que les reports de 2020 seront les compagnies qui seront là-bas en 2021 ou non, est-ce qu'il y aura de la place, etc. Donc, c'est un peu comme, au-delà d'être dans une pause, voilà, il y a une pause de 2 mois et on reprend l'activité comme on a été, Là, on est pour le coup sur un arrêt de la machine et il faut relancer cette machine pour remettre en route l'ensemble de la filière, avec toutes les interactions effectivement là qu'il y a entre les différents acteurs de la création, production, de l'organisation et l'événement, et la diffusion. Il y a besoin de remettre cette machine en route et donc de relancer un peu cette machine. D'où, je pense, des politiques de soutien plus fortes, une attention particulière en tout cas.
Alors cette semaine, Emmanuel Macron a parlé à la place de son ministre de la Culture pour nous présenter un certain nombre de mesures, beaucoup de blabla, on pourrait dire quand même, mais avec quand même quelques mesures phares.
Oui, disons qu'il y avait effectivement, notamment l'année blanche pour les intermittents, ça c'était quelque chose qui était très attendu du secteur et de l'ensemble des professionnels. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Après, il faut en voir les modalités, les précisions, de quelle manière, pour qui, comment, etc. Donc ça, je pense que c'est le travail qui va se faire en négociation collective avec les syndicats du spectacle. Voilà. Après, il y a une politique un petit peu autour des tournages et des productions cinéma. Donc là, effectivement, il y avait une demande spécifique de ce domaine-là, puisque tout était à l'arrêt. Donc là, voilà, on peut imaginer. On n'a pas vu de même chose par rapport au spectacle vivant, etc., ou aux arts visuels, même si on parle d'une politique de grands projets. Ça fait penser un peu aux politiques de grands travaux qu'on met en place. Voilà, moi, je suis juste un peu sceptique sur le fait que ça se draine l'ensemble des acteurs, et surtout dans les territoires comme les nôtres. Voilà, est-ce que ces genres de politiques, de grands projets, de grandes commandes, auront un impact direct et immédiat pour nos structures? J'en suis moins sûr.
En fait, il faudrait que le soutien passe à l'échelle régionale, c'est ça?
Oui, moi je pense qu'en tout cas, c'est tous les acteurs qui doivent se mettre en place. Hein. La culture, on sait, dans nos territoires, elle est vitale. Elle est vitale au quotidien, elle est vitale dans l'économie même des structures, parce qu'encore une fois, on fera l'état des lieux de l'hôtellerie ou de la restauration, par exemple, mais on fera pas le corollaire avec le fait que la perte de nuitée, elle est peut-être due à la non-réalisation du festival, ou etc. Alors que l'impact est immédiat et l'effet est direct en fait, donc il est corrélé. Donc voilà, c'est par rapport à ça que dans nos territoires il faut être très vigilant, parce que c'est aussi, ça impacte la culture certes, mais ça impacte par effet aussi ensemble de d'autres acteurs de l'économie.
Alors il a eu quand même certaines phrases qui étaient à tendance néolibérale, on pourrait dire, du style il faut se réinventer, il faut être créatif, et ça on a toujours l'impression que les intermittents vont finir à ramasser des fraises quand on commence comme ça.
Ouais, l'expression est pas mal. Il faut se réinventer, je crois que enfin toute personne qui porte un projet le sait bien, enfin, il fait ça tous les jours. Je veux dire, forcément, on se réinvente. Le principe même du rythme, de la vie, de l'action culturelle, c'est de se réinventer en permanence, c'est de recréer, c'est de se reproposer. Donc oui, enfin, je pense pas que c'est une réponse en lui-même, c'est plus effectivement une parole de la manière, peut-être sur la manière de vivre les choses, même si effectivement je pense qu'on est encore dans un temps où on pense les plaies, et enfin c'est pas la même dynamique de se mettre à réinventer que celle de déjà nettoyer les dégâts et faire le point, quoi.
Parce qu'il a quand même laisser entendre que puisque les artistes n'avaient plus de lieu de diffusion, bah, ils pourraient aller faire de l'animation dans les écoles.
Ouais, bien sûr, oui. Qu'est-ce que tu veux, je réponds à ça. Déjà, il y a deux termes pour moi qui sont antinomiques, animation et création et artistique. Enfin, c'est pas les mêmes métiers, c'est pas les mêmes volontés, les mêmes recommandations. Et effectivement, comme tu le dis, si on disait, pour moi, c'est exactement du même type que de dire que tous les artistes devaient devenir garagistes ou je sais pas moi, promoteur immobilier, quoi. C'est la même nature. Se réinventer dans son métier, oui, mais encore une fois, je le dis, on le fait tous, c'est le principe même de ce travail. Moi, c'est vrai que dans mon travail, ce que je vois, c'est que des structures qui ont un petit peu différents types d'activités tout en restant dans le champ artistique et dans les compétences qu'ont les comédiens, les metteurs en scène, les musiciens, les plasticiens, mais qui travaillent parfois dans l'éducation artistique, oui, ou dans l'action culturelle, dans les territoires, ou qui interviennent dans des foyers, des prisons, etc. C'est vrai que toutes les structures qui ont un petit peu des activités, entre guillemets, diversifiées, peuvent éventuellement, dans leur plan de relance, travailler en, je dirais, en mobilisant certaines de ses activités plus que d'autres. Donc ça, dans ce sens-là, ben, c'est pas se réinventer, c'est reconfigurer les priorités de l'année suivante.
Finalement, pour Ecopia, c'est une aubaine, parce qu'avec toutes ces structures qui vont être en difficulté, ils vont tous avoir besoin de se tourner vers des structures comme la tienne.
Ouais, voilà, c'est ça. Ça va être super pour nous. Non, ben, faut dire que nous, on est aussi une structure, ben, on est effectivement une structure d'appui, mais il n'en reste pas moins qu'on est également impacté par la crise, par ce qu'on vit actuellement. Ça, d'une part. On propose, ben, effectivement, on peut avoir plus de travail, j'en sais rien, mais en tout cas, on a une vraie envie, nous, de pouvoir venir en appui et en accompagnement des structures. Là, pour signaler, par exemple, on vient de réussir à mettre en place une plateforme d'accompagnement pour les artistes auteurs, pour les plasticiens, les graphistes, les écrivains. Donc en partenariat avec Devenir Art, avec Métier Culture et puis Artefact, qui va nous permettre d'accompagner justement aussi les artistes auteurs dans les problématiques qu'ils ont, puisque là ils étaient un petit peu isolés et isolés dans la gestion de cette crise.
Ok.
Donc nous c'est plus une affaire de mobilisation plutôt qu'une affaire d'en avoir un retour. Voilà. On sait qu'on va avoir du boulot, ça c'est sûr.
Ok, ben merci pour cet accompagnement dont Radio Béton a profité, donc double merci. Donc c'était Arnaud Lantoine, directeur d'Ecopia. Eh bien, je te souhaite un bon dernier week-end confiné. Au revoir.
Merci beaucoup. Eh ben écoute, bon week-end à toi et puis le bonjour à l'ensemble des auditeurs.
Confine ta mère. C'est l'émission collaborative de Radio Béton sur l'actualité locale liée au Covid-19. Paroles officielles, interviews et témoignages du corps médical, de celles et ceux qui bossent ou qui sont confinés. Confine ta mère du lundi au vendredi à 13h et le samedi à 12h. Rediffusé du lundi au vendredi dans l'émission Confinement FM.